Vendredi 9 mars 2012, vous écoutez La Vie en BD sur les ondes de CKRL. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, et oui, si vous ne reconnaissez pas entièrement la voix, c'est quand même la mienne, avec des nuées de grippe pré-extinction de voix. Alors on va voir ce que ça va donner. Évidemment, l'émission sera disponible en podcast, ce qui fait que j'aurai le plaisir d'aller voir à quel point je sonnais bizarre cette semaine. Les podcasts, je vous le rappelle, qui sont toujours disponibles sur lavieenbd.wordpress.com. Et j'espère évidemment que cette nouvelle sonorité ne vous effraiera pas et ne vous empêchera pas de passer une heure en ma compagnie, en la compagnie de mes invités et de mon équipe également, pour parler cette semaine principalement de bandes dessinées. C'est le modus vivendi de l'émission, alors on ne réinventera pas la roue cette semaine. Notamment une grosse sortie à Québec dans les dernières semaines. Le retour du Dr Smog, le caricaturiste André-Philippe Côté qui nous a offert cet album. Après deux parutions qui avaient fait l'Europe et le Québec, ce troisième tome qui apparaît seulement au Québec aux éditions La Presse. Alors pourquoi ce choix, mais aussi on parle du personnage et des gags avec André-Philippe Côté tout à l'heure. Également, un BDiste qui est passablement occupé, on l'imagine, ces jours-ci. Il s'agit d'un jeune qui s'appelle Alex A, qui a lancé en septembre dernier, 29 septembre 2011, sa première BD, L'Agent Jean. Il y a déjà un deuxième tome qui devrait normalement paraître pour le Festival de la bande dessinée de Québec, donc à quelque part à la mi-avril. Déjà un troisième tome sur les rails aussi pour cette série-là. Alors on va en profiter pour faire le point et pour découvrir donc cette série avec le dessinateur et scénariste tout à l'heure. Également, des collaborateurs qui seront de passage. Il y aura Stéphane Gravel, notamment, qui sera avec nous pour parler BD, nous partager ses commentaires. Également, en fin d'émission, Michel Giguère, qui sera de passage, toujours quelques jours avant ses rendez-vous de la BD présentée à la bibliothèque Gabriel Roy. Et également, ça nous permettra de faire le pont avec l'émission de la semaine dernière, où on avait parlé du festival Bord d'Images. On était revenu sur l'événement avec des BDistes québécois qui y étaient allés cette année. On vous avait annoncé qu'il y aurait des BDistes de Bordeaux qui viendraient à Québec dans les prochains jours. Et question de mettre la table sur cette visite avant de les rencontrer, évidemment, ici à La Vie en BD. Eh bien, Michel va nous dresser un peu le portrait de ces cinq BDistes. Donc, on parlera de Nicolas Dumonteuil, de Laureline Matitussi, de Cromwell, de Vincent Perriot et de Jérôme Davio, ainsi que de Johanna Skipper avec Michel Giguère. Ce sera en fin d'émission. Alors, c'est le menu pour cette semaine. Sinon, petite nouvelle au passage, toujours intéressant de voir les thématiques qui sont poussées, qui sont mises de l'avant dans les recueils de Glénat Québec à chaque année, toujours ce concours BD qui est lancé. Eh bien, dans les derniers jours est sortie la thématique pour le recueil 2012 de Hachette Canada et Glénat Québec. Alors, le thème cette année qui sera bouffe, gastronomie et amuse-gueule. Alors, après nous avoir amené sur le terrain du hockey et de la bande dessinée avec le démon du hockey, eh bien, ce sera bien intéressant de voir qu'est-ce que les BDistes vont nous offrir autour de cette thématique-là. On nous met d'ailleurs dans le communiqué du concours une grosse image de Poutine. Alors, ça donne quand même le ton. Ça va être BD et gastronomie à la québécoise. Et évidemment, s'il y a des BDistes qui écoutent l'émission présentement, ben vous êtes invités à soumettre votre scénario. Les informations, vous pouvez les trouver notamment sur le Facebook de Glénat Québec. Et également, on a relayé tout ça à partir du Facebook de La Vie en BD. Alors, vous pouvez aller trouver ça là-bas. Alors voilà pour cette mention. Et sinon, pour la sélection musicale de cette semaine, on va aller avec des rythmes électro. On va écouter quelques extraits de l'album Coming Soon du Matos. Et on en écoute un, Illico, la pièce Piège de cristal. Petit extrait de la formation Le Matos, ici à CKRL, à la vie en BD. Et on parle dès maintenant de bande dessinée, un album qui nous est arrivé il y a quelques semaines et qui est disponible évidemment sur les étalages des librairies un peu partout. Il s'agit du retour du Dr. Smog, troisième album de cette série que nous propose André-Philippe Côté, qu'on connaît bien évidemment, notamment pour ses caricatures dans le journal Le Soleil. Et André-Philippe Côté qu'on attrape quelques instants d'ailleurs avant une séance dédicace. Alors, si vous passez au Renaud-Bré de Place Laurier entre 18h et 19h30 ce soir même, eh bien, vous pourrez l'y trouver et faire dédicacer votre copie du retour du Dr. Smog. Mais avant les signatures, parlons un peu de cet album en sa compagnie. Monsieur Côté, bonjour.
Oui, bonjour. Je vais vous tourner tout de suite parce que mon espérance de cette signature a été reportée vendredi prochain, de 18h à 19h30, le 16 mars.
Ben voilà, alors on a une chance pour la mettre à l'agenda. Ça serait un peu moins pressant. Alors le 16 mars, au Renaud-Bré et Laurier pour vous rencontrer. Et André-Philippe Côté, votre personnage du Dr. Smog, donc est de retour après un long congé. Il y a eu deux albums chez Casterman il y a quelques années. Maintenant, un retour aux éditions La Presse. La Presse, en fait, pourquoi la pause et pourquoi le retour?
Ah, de façon plus réaliste, c'est que moi je trouvais que j'avais eu l'attente d'un bon album apparemment avec Casterman, mais je trouvais que c'était un rythme beaucoup trop intense avec mon travail de caricaturiste, donc on a comme d'un commun accord mis fin à la série. Il y avait aussi que les ventes fonctionnaient très très bien au Québec, mais ça ne l'était pas en France. Donc les autres voulaient surtout vendre en France. Donc je dis, allez, je vais reprendre le mot, puis si ça m'intéresse, j'en lancerai de la série au Québec. Puis c'est ce que je fais maintenant. C'est après quelques années, j'étais pas très heureux de repart là, au Québec.
Oui, et en même temps, il y a une certaine demande aussi appuyée par la présence qui a été soutenue malgré la pause album en caricature. Là, le personnage n'est pas disparu du tout.
Non, voilà, ben, il y a dans les caricatures, puis j'ai poursuivi les caricatures, ce qui fait qu'il y a toujours été dans les médias, puis effectivement, il y a une demande qui était très, très forte pour les lecteurs. Chaque fois, j'avais de faire du livre, on faisait quand est-ce le prochain album, quand est-ce que... Bon, je repoussais toute personne, même l'année passée, où ça nous dit, on a vraiment vu trop de demandes. Il faut que je réponde.
Et justement, parlant de la genèse, peut-être un peu, du Dr. Smog, vous l'avez dit, il est né dans les caricatures, et j'imagine que c'est un personnage qui a cliqué assez rapidement de votre côté, parce que vous l'avez récupéré comme personnage récurrent, d'abord dans les caricatures, pour ensuite lui donner une autre vie, là, en album.
Non, ben, c'est un peu, c'est parce que le personnage, a un certain nombre d'éléments qui m'intéressent beaucoup, là. J'ai rien été remarqué pour la psychanalyse, toutes les analyses de la psyché, ça m'intéresse beaucoup, c'est sûr que j'essaie d'écouter les sous-discours des gens, des politiciens, tout ça, pas juste ce qu'ils disent dans leur langue de bois. Puis ensuite, ça, c'est un personnage plaisait aussi beaucoup. J'aime beaucoup ces personnages-là qui sont un peu mobiles, qui s'éveillent autour, qui tournent, qui viennent parler, qui. C'est un personnage un peu vide où les gens viennent se pencher.
Et en même temps, ça donne l'impression aussi avec un cadre aussi précis que vous aimez travailler sous la contrainte, créée sous la contrainte.
Non. C'est vraiment. Ça fait partie de mon processus de création, d'avoir des contraintes. Et quand je n'ai pas la part de mon patron, comment tu avec ça, tout ça, puis je suis chez moi, je m'impose des contraintes. Je déterminé un certain nombre de paramètres, puis je me dis, bon, là, je veux travailler avec tel personnage, à tel environnement, sur tel nombre de pages, des fois des contraintes, de texte, tout ça. Je me suis toujours donné des contraintes avant de commencer à travailler. C'est un besoin essentiel pour moi. Je n'arrive pas à créer ça.
Et avec ces contraintes-là, ça vous donne au contraire le moteur suffisant pour essayer de trouver des manières de les maximiser au bout du compte, parce que c'est un peu ça, j'imagine, le défi?
C'est parce que je trouve que le problème de la forme, quand on a des contraintes, c'est que vraiment, on règle le problème de la forme, puis après ça, on accède directement au contenu, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Ça libère d'une certaine façon. On arrête de penser comment le docteur Smith, j'ai pas de me dire si je suis sur une page, deux pages, trois pages, 8 cases, 12 cases. C'est réglé, ça. C'est la forme est définie et ça me libère au niveau de ce moment-là et je peux lire complètement dans le contenu, le message, ce que je veux dire dans les personnages.
Et parallèlement, de composer donc le Dr Smog en format album, on parle de courtes histoires de 4 cases, évidemment, j'imagine qu'on ne les aborde pas non plus de la même façon que quand on travaille le Dr Smog pour la caricature, ou au contraire, c'est un peu le même travail de création, une réflexion autour du personnage, et on se dit, ça c'est plus un gag d'album, ça c'est plus un gag de caricature, ou... au bout du compte.
Complètement.
Et c'est pas non plus, c'est pas facile, enfin, on peut s'imaginer faire peu, ça peut être plus facile que faire beaucoup, mais au contraire, là, c'est pas évident d'aller bien cibler autant au niveau d'image, les mots, etc.
C'est très difficile, des fois, il y a des phrases que je peux travailler avant 2-3 semaines avant de trouver la formulation
Parallèlement, on parlait de contraintes. Cela dit, dans l'album, dans le retour du Dr Smog, vous vous permettez de le sortir un peu de son bureau, de l'amener à l'épicerie, à l'arrêt d'autobus, dans la rue. Ça permet de justement de renforcer un peu le côté un peu sauté de ce personnage, un peu disjoncté à certains égards, qu'on percevait déjà dans ses interactions avec les gens dans son cabinet, qu'on perçoit encore plus dans la vie, entre guillemets.
C'est un personnage un peu décalé. Je sais, c'est quelqu'un qui a fonctionnellement le refus de la normalité chez lui. C'est quelque chose qui lutte contre le concept de normalité. Il n'est pas seulement normal, en fait. Il n'y a rien de normal. C'est-à-dire que chacun a ses torts, ses travers, ses mécontents. Il faut essayer d'arriver à vivre avec ça. Il s'agit de ne pas souffrir de ça. Si la souffrance est une maladie, si c'est pas souffrance, c'est normal. C'est normal d'être bizarre. C'est normal d'avoir des idées. Puis dans la vie, je le laisse aller, puis je le laisse aller comme étant une personne qui est pas normale, qui est un peu décalée, qui réagit pas comme tout le monde dans des situations quotidiennes.
Et est-ce qu'on pourrait dire que l'arrière-plan, en fait, qui est un peu l'une des traditions, on pourrait dire, de la série, un arrière-plan aux formes variables qui vient appuyer cette perception-là?
Oui, ça, c'est... En fait, moi, j'avais suggéré ce concept-là, c'est-à-dire que l'arrière-plan, ce qu'on refait du patient, que ce soit dans le cabinet du Dr Smog, c'est comme une extension sur l'intellect, sur sa psyché. Là. Puis, ça, c'est vraiment une histoire à créer. Comment quel décor je note, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fascinant. Mais les décors apprécient vraiment beaucoup ces gens-là. J'ai beaucoup de retours là-dessus sur. C'est quelque chose qui définit bien la série du Dr Smog.
Oui, effectivement, et on se demande toujours qu'est-ce que vous allez réinventer dans cette nouvelle, dans ce nouveau strip-là, au niveau du décor notamment.
Oui, puis j'avoue que c'est un bon coup de main là-dessus, parce qu'on a un accès, c'était compliqué avant, mais là, avec les bandes d'images et tout ça, c'est qu'on a un accès rapide, beaucoup de références visuelles, c'est très, très agréable. Même les manuscrits anciens, les vieilles gravures, on a accès ça sur Bordeaux avant, c'était vraiment des recherches laborieuses.
Et parallèlement, dans l'album aussi, il y a des chutes récurrentes. Vous avez décidé d'insérer une espèce de gag récurrent à l'intérieur de l'album où on place quelqu'un dans une cellule capitonnée. Donc, ça crée un rythme un peu dans les gags que vous proposez?
Oui, ben, je trouve que la cellule capitonnée, je trouve ça c'est un peu un archétype de la folie, la personne qu'on enferme là-dedans avec une camisole de force. Ça correspond à quelque chose d'ancien par rapport à la folie. C'est plus réel maintenant. Mais je trouve que ça marque aussi, ça donne le Dr Smog à la bande dessinée, son côté décalé. Je crois qu'on affectue un psychologiste ou un psychologue, c'est ça. C'est un personnage qui n'est pas ancré dans notre réalité directement, la fête. C'est pas un médecin, c'est pas un personnage un peu flyé, là, mais je trouve vraiment lequel là-dedans. On va revenir avec cette cellule capitaine, je ne sais pas si ça existe encore.
Et parallèlement, en fait, vous l'inscrivez un peu en même temps à la dernière case de l'album ou le dernier strip de l'album, donne l'impression un peu que vous dites, ben regardez, il est non seulement dans son univers, mais son univers, c'est la BD. Et vous interpellez un peu le lecteur, vous vous amusez à briser à un moment donné le quatrième mur.
C'est ça, c'est que c'est encore l'idée du. Je suis tout à fait qui était contre le concept de moralité, il y a aussi contre le concept de réalité, c'est-à-dire que la réalité, c'est pas une chose, pareil pour tout le monde, la réalité est variable d'une personne à l'autre. Dr Smog, il n'est pas sûr de sa réalité. En fait, sa réalité, c'est une bande dessinée. Lui, il l'a mis, mais c'est pas sûr qu'il lui dit qu'il sort dans une bande dessinée. Il le reconnaît pas. Il a une personne qui est venue dans le capitaine, mais c'est ça, ça fait partie du personnage aussi. C'est des grandes luttes, c'est lutter contre la réalité et lutter contre le concept de réalité.
Et j'ai l'impression, en fait, dans l'année 2011 et 2012, on vous nous avez offert en BD vraiment deux facettes différentes de votre travail, en fait, donc 2012 avec le retour du Dr Smog, mais également, en fait, je le mentionne au passage, l'homme au graffiti que vous aviez offert l'année dernière chez Mouton Graphique, votre première BD, je crois, là.
Oui, c'est toute première BD, c'est la BD que j'ai faite, je voulais faire la peinture, je voulais peindre tout ça, mais finalement, je suis attiré aussi par la bande dessinée, c'est la première. Travail que j'ai fait, premier rêve que j'ai fait, qui fait le passage des étoiles de peinture vers la bande dessinée. Donc, c'est moi qui ai fait l'hybride, disons, ça, ces deux-là. C'est très spécial, très différent de ce que je fais d'habitude.
Oui, ben en fait, je veux dire, on parcourt les pages. Initialement, je n'avais pas regardé l'auteur. Je regardais l'album et je me dis, mon Dieu, c'est qui a fait ça? Je regarde, mon Dieu, c'est André-Philippe Côté et on ne reconnaissait pas du. Ça fait un trop de visage vraiment de votre travail. Là.
Ouais. J'ai toujours, ça m'a mis un certain époque, là, mais j'ai toujours aimé, errer dans les différents styles, dans les différents tendances. J'ai des intérêts extrêmement variés au niveau des arts. Donc, c'est sûr, l'expressionnisme est un genre qui beaucoup plus. Puis le graffiti s'inscrivait dans cet intérêt-là, surréalisme et expressionnisme. Je suis allé là-dedans. Mais par ailleurs, en même temps, je peux faire des choses humoristiques ou réalistes. Donc, contrairement à certains auteurs, il faut qu'il y ait un style très défini dès le début. Moi, j'ai eu des certains problèmes à me situer au départ. Maintenant, je trouve qu'en quelque sorte, ça m'aide beaucoup parce que ça élargit une palette, si on veut, de style.
Et en terminant, André-Philippe Côté, est-ce qu'on envisage déjà un quatrième tome de Dr Smog ou d'autres
projets de l'écrit? J'écris tranquillement les gars, par un, j'ai pas de dépression, c'est justement quand j'ai abandonné un album par année, c'est pour, je vois, pour pouvoir être libre par rapport à ça. Ce qui fait que j'ai déjà 5-6 pages d'écrits, pour le plaisir, je donne pas de temps, je sais pas, on verra.
Excellent. Bon, on continue de suivre tout ça. Et je rappelle donc, les gens peuvent vous rencontrer vendredi prochain, le 16, à Renaud-Bray, place Laurier, pour une séance de dédicace. André-Philippe Côté, merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée à vous également. Alors voilà le retour du Dr Smog qui est paru aux éditions La Presse. Et on repart en musique avec un autre extrait du Matos. Au retour, Stéphane Gravel. Sa voix approximative, toujours avec vous ici à La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Et on est rejoint maintenant par Stéphane Gravel. Bonjour.
Oui, salut. Quel courage.
Merci. Enfin, on va voir si on sera jusqu'à la fin de l'émission. Alors, il y a comme un côté jackass aussi à l'édition de cette semaine, là. Un côté performatif.
Et,
Stéphane, cette semaine, tu nous parles de Fournier.
Entre autres, j'ai le goût de parler de Fournier. Tu sais, j'aime beaucoup la je pense que je vieillis, Raymond. J'aime beaucoup la vieille BD et j'aime de plus en plus cette vieille BD-là. Et bon, on dit vieux, là, quand on parle de Fournier, on parle des années 70, c'est vieux pour certains, c'est moins vieux pour d'autres. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, puis que je lisais les Spirou, puis que je lisais les Spirou de Franquin, puis que je me retapais comme ça les Spirou un après l'autre. Bon, je m'en souviens pas lorsqu'ils sortaient en live, si on veut, là, parce que là, je suis quand même pas né dans les années 40, là. Mais je lisais les Spirou, puis je les lisais en ordre. Et quand j'étais tombé dans les Spirou de Fournier, j'étais un peu déçu à l'époque. Il y avait quelque chose de l'univers de Franquin qui disparaissait et ça me faisait quelque chose. Mais la raison était simple. Avec Franquin, quand Franquin a laissé de côté Spirou et Fantasio pour se consacrer sur Gaston Lagaffe, il y a un personnage assez majeur des aventures de Spirou et Fantasio qui est disparu, mm-hmm. et c'est le Marsupilami.
Oui.
Puis il y a 10, 12 ans, quand le Marsupilami disparaît,
ça fait mal.
Parce qu'il manque vraiment quelque chose. Mais là, avec les rééditions, avec les formats intégrales, j'adore les formats intégrales, je vous le cache pas, puis d'ailleurs, j'en fais quasiment une spécialité maintenant, vendredi, de parler des intégrales, là. Je suis retombé, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les Spirou de Fournier. Et j'ai adoré ça. C'est-à-dire que on disait souvent, j'entendais souvent parler de Fournier comme étant le breton poète. Et ben oui, c'est vrai que dans les aventures de Spirou racontées par Fournier, si on pense au Faiseur d'or ou du glucose pour Noémie ou à l'abbaye truquée, il y a tout un univers qui est très différent de celui de Franquin. Mais les personnages de Spirou et Fantasio gardent quand même leur identité, ce qui va un petit peu disparaître, je trouve, avec plus tard avec les Spirou de Covey, après ça avec les Spirou de Tom et Jean-Henri.
Et j'ai l'impression peut-être, Stéphane, justement, avec le recul qu'on a aujourd'hui, comme à l'époque de Fournier, c'était le premier à s'attaquer à cet univers-là, eh bien, on se rend compte, après, qu'il y en ait d'autres qui se sont frottés et quelques-uns qui ont échoué, bien que finalement, Fournier, c'était pas du tout un échec, bien au contraire, la proposition qu'il en avait fait.
Absolument. C'est quelqu'un qui dessine extrêmement bien et qui est tout à fait dans l'école Dupuis et à la suite de Franquin, ça n'a pas de problème. Puis au niveau des histoires, ben c'est des histoires qui sont aussi intelligentes et qui sont intéressantes, là. Du sucre pour les étoiles, pardon, c'est lui. Les gris-gris du Néocolocoba, c'est lui. Tara Tarapa, c'est lui. L'Ankou, les haricots tout partout. Kodo le tyran. Donc, on voit là qu'on rentre dans un univers de Spirou qui, oui, et ce sont des aventures, et ce sont des aventures près d'une réalité fantastique, oui, mais près d'une réalité pareille. On n'est pas encore tombé dans le quasi-Spirou manga que vont nous amener les futurs pour essayer de rajeunir le personnage. Et c'est en le réalisant aujourd'hui que j'ai adoré ça.
Alors évidemment, c'est le genre de lecture qu'on recommande pour ceux qui aiment bien justement l'univers de Spirou. Peut-être en fait, qu'en considérant que les derniers, ben pas les derniers, en fait, se défendent mieux que. Mais il y a eu une période, un âge noir, là, un peu, qui a peut-être effrayé certains lecteurs.
Oui, absolument, absolument. Je pense qu'il y a eu une petite période sombre. Puis j'avais tendance, dans mes souvenirs, à mettre Fournier dans le début de cette période sombre-là. Et puis, avec le retour, non, je trouve que c'est quelqu'un qui était vraiment dans la lignée de Franquin. Puis dans le fond, il a été là de 1969 à 1979 à peu près. Il a fait une bonne dizaine d'années, une dizaine d'albums. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même assez présent dans l'histoire de Spirou. Et puis là, ben, avec Dupuis qui font des intégrales qui sont, ma foi, extraordinaires. Il y a toujours des petits textes de présentation. Et puis, c'est pas ben cher, hein? C'est quoi? C'est 30$ pour trois albums dans l'intégrale. Et si je continue dans mes intégrales, oui. Quelque chose qui m'a touché beaucoup, si on a le temps, Raymond.
Oui, on a le temps.
Chez Casterman, là, ils sont en train de rééditer, encore une fois, sous format intégral, les Sibyllines de Machereau. Écoute, ça a l'air quétaine, ça, là, la petite souris avec les petits animaux, puis le petit côté un petit peu animalier, là. Mais c'est d'une beauté assez touchante, et ce sont des histoires qui sont vraiment extraordinaires. En lisant ça, c'est une BD que j'avais jamais lue. Quand j'étais petit, je trouvais ça peut-être un peu bébé comme dessin. Plus vieux, j'avais pas l'intérêt. Maintenant, avec le goût de revenir en arrière et d'essayer de redécouvrir les classiques, parce que je trouve qu'on a tendance à, avec la bande dessinée moderne, aller chercher. Il y a tellement des choses qui sont extraordinaires qu'on a tendance à repousser du revers de la main les grands classiques. Mais souvent, je voyais ça. Souvent, j'entendais parler de Sibyline ou je voyais Machereau comme étant quelqu'un qui avait pu influencer certaines histoires. On en parle un peu aussi, même dans Mars de Spiegelman, parce que c'est de la bande dessinée animalière, puis que les animaux ont un caractère vraiment humain. Et puis j'ai embarqué là-dedans, c'est de 1965 à 1969, ce premier recueil-là, où on met en place le personnage de Sibyline, la petite souris, dans l'appartement de la famille où elle vit, avec les animaux qui sont autour, et c'est d'une beauté extraordinaire, et c'est un trait qui est d'une précision qui a fait école et qui est encore à noter aujourd'hui. Je veux dire, il y a vraiment un dessin qui est extraordinaire. Et puis là, ben, les aventures sont tellement belles. C'est tellement... moi, je suis toujours un peu... ça me jette toujours un peu quand je vois des trucs 1965, c'est à mon âge. Là, c'est quand même... j'ai des cheveux gris, j'ai une bedaine, mais pas Sibyline, là. Il n'y a pas de cheveux gris là-dessus.
Ça bien vieilli, ça passe bien, là, même 40 ans après.
C'est tellement contemporain, c'est tellement beau. Puis moi, je viens de passer à travers. Je te dis, je l'ai terminé aujourd'hui, puis j'ai été extrêmement heureux avec le rayon du soleil qui passait à travers mes fenêtres de pouvoir lire une petite BD simple et intelligente comme ça, où ça ne te laisse pas de... C'est juste beau. C'est juste beau. Et j'ai hâte de la faire lire à mon petit garçon, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose à découvrir. Et c'est pas parce que c'est une petite souris qui s'appelle Sibyline que c'est pour les filles comme je pensais quand j'étais tout petit.
Oui, en fait, j'ai l'impression, moi aussi, quand j'allais à la bibliothèque quand j'étais jeune, j'avais vu cette série-là et ça faisait parmi celles un peu desquelles on peut avoir une opinion préconçue très rapidement à cause du personnage, du titre et le reste, mais il faut passer par-dessus ça pour donner sa chance.
C'est vraiment beau. C'est vraiment intelligent. J'ai été étonné. Je pense que c'est pas gênant du tout d'offrir ça à cadeau et de faire lire ça à nos enfants. Puis, t'as pas encore 2 minutes, toi?
Je pense qu'on va s'en garder un peu.
OK, parfait.
Alors, en fait... Oui, enfin, on reste dans les intégrales à tout le moins pour cette semaine. Donc, intégrale Spirou, les années Fournier, intégrale Sibylline, la première tranche de 5 ans. Donc, à découvrir.
Ah, enfin, on va tomber dans Michel Vaillant la semaine prochaine, là, puis les spaghettis, puis Total Choix. On va avoir du plaisir aussi.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Stéphane.
Ben, merci.
Salut bien.
Je me porte messager des grands
classiques.
Je te connais pas vraiment.
Moi non plus. Salut bien. Alors voilà, c'était Stéphane Gravel et nous, on prend une courte pause encore à venir. On jase avec Alex A. et avec Michel Giguère.
Le Radioton de CKRL arrive à grands pas et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par le Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de froid.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal.
1049 3e avenue Limoilou. Lesbaldilezard.com.
Mon arrière-grand-mère était l'arrière-arrière-grand-mère de mon petit-fils, étant donné que mon cousin éloigné était son grand-frère de sang. Ou bien, l'arrière-grand-père de mon père était le frère de mon arrière-grand-père.
Le Radioton, l'événement de l'année de CKRL arrive à grands pas avec tout ce que le printemps apporte de beau. Ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la Barberie, la Boîte à pain et le Bal du Lézard.
C'est le père de mon père qui était mon grand-oncle et le grand-père de mon père qui était mon arrière-arrière-grand-père. Mais ma mère, dans tout ça, à suivre...
À ne pas manquer en mars à l'Amplique Québec. Préparation au studio avec Stéphane Rancourt.
Le souffle sonore avec Marie-Louise Bourbeau.
Atelier de rédaction de demandes de bourse avec Guillaume Sirois et Geneviève Savoie.
Jeu à la caméra avec Jean-Pierre Bergeron.
Saisir l'univers d'une chanson avec Serge Lacasse. Le week-end d'Éric Goulet.
La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Et enfin, jeu d'écriture avec Reggie Brassard.
AmpliDeQuébec.qc.ca 88-977-9764.
L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Funk, soul, groove, afrobeat. Le vendredi 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Duvignon et Guy Bundy font exploser CKRL. C'est 100% dynamite. Québec. CKRL.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418 529 3829.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle, si vous voulez aller écouter les autres émissions, eh bien, c'est possible de le faire via le blog de La Vie en BD, lavieenbd.wordpress.com. Et ben, on le disait en début d'émission, un BDiste qui doit être assez occupé, du moins côté création d'album, en fait, premier opus d'une série qui s'appelle L'Agent Jean, qui est arrivé en septembre 2011 en librairie aux éditions Presse Aventure. Et il y a déjà un deuxième tome qui est pratiquement terminé. En fait, on a déjà vu quelques pages et la page couverture qui va arriver en librairie à quelque part à la mi-avril, donc dans cette série. Et pour nous parler un peu justement de cette série-là, on est en compagnie de son auteur et dessinateur Alex A. Bonjour.
Et bonjour.
Alors, dans le fond, une année à s'occuper de votre côté, là, on peut dire.
Oui, ben l'année dernière aussi. Oui, c'est franchement un changement important dans ma vie. Quand j'ai commencé à faire de la BD, j'ai commencé à travailler beaucoup plus intensément.
Et coup sur coup comme ça, je veux dire, vous n'avez pas eu de pause entre les deux tomes. Le premier était déjà sorti, que déjà vous travaillez sur le deuxième. Et de ce que j'ai compris sur votre Facebook, déjà le troisième est en chemin aussi tranquillement.
Oui, mais je me donne une petite pause entre chaque tome quand même. Mais oui, il y a pratiquement pratiquement pas de pause en check. Ils m'ont signé pour 4 au commencement, donc je peux plus arrêter jusqu'à la fin de l'année.
Est-ce que ce n'est pas négatif? Est-ce que c'est pas négatif?
Non, du tout. Je suis très content.
Et qu'est-ce que ça représente, justement? Parce que le premier tome, celui de septembre dernier, Le cerveau de l'apocalypse, c'est le premier opus, le premier album. C'est toujours une étape charnière. Et là, en plus, quand on se lance et qu'on sait qu'on en a 4 à livrer comme ça, j'imagine que c'est un peu... est-ce qu'on peut parler d'un rêve qui se réalise? Ou...
Oui, complètement. Surtout 4 livres en partant. On promettait déjà une série en commençant. Moi, j'espérais juste un premier album pour mes preuves. Mais oui, ça a été... vraiment un accomplissement dans ma vie que je voulais faire depuis que je suis enfant.
Et d'ailleurs, en fait, on le voit dans le premier tome à la fin, j'ai trouvé ça bien intéressant, d'ailleurs, l'évolution de ces personnages-là, et on se rend compte justement qu'ils n'ont pas été créés récemment, vous les avez portés avec vous pendant quand même pas mal d'années.
Oui, le personnage de Jean a été créé quand j'avais entre 8 et 9 ans, je ne suis plus très sûr, donc oui, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été ma première série, c'est parce que j'étais tellement confortable avec ces personnages-là, puis je connaissais l'univers par cœur, que ça a été tout naturel. J'aurais pas pu commencer avec quelque chose de trop ambitieux, parce que j'ai d'autres projets aussi qui sont plus flyés encore.
Et justement, donc ça veut dire les personnages étaient déjà bien définis, bien cadrés, c'est simplement des placés à l'intérieur d'histoire. Comment vous avez procédé un peu pour la création de tout ça?
Il s'agissait en fait de faire vraiment un album complet que j'avais jamais fait avant. Je savais même pas si j'étais capable, j'ai pris une chance. Le Prince Aventure aussi a pris une chance avec moi parce que j'avais jamais fait d'album.
Et tout ça, en fait, moi, ce qui en ressort, et je pense que c'est vraiment l'esprit extrêmement décalé, absurde là, qu'il y a dans votre univers.
J'évalue que c'est à peu près 10% de l'esprit décalé que j'ai dans la tête, ces livres-là. Je te l'ai assez...
assez soft. Assez
grand public pour ce livre-là, je trouve. Ça m'a étonné que les gens trouvent ça aussi décalé.
Et en même temps, il y a un plaisir à faire, justement, à proposer quelque chose à l'intérieur de ce ton-là, j'imagine. Là, et de votre côté, de ce que j'en comprends, c'est assez naturel. Faut vous restreindre, vous contraindre un peu à ne pas aller trop loin pour...
Faire des bandes dessinées réalistes, ça m'aurait vraiment pas plu. C'est surtout parce que je m'ennuie facilement à dessiner, donc j'ai besoin de dessiner des choses le plus faillées possible, donc ça vient tout naturellement. Ça vient avec mes influences depuis que je suis jeune aussi. J'ai été d'une génération remplie d'absurdités, je trouve.
Et justement, peut-être pour présenter un peu les albums, je vous laisserai peut-être vous lancer le cerveau de l'apocalypse et la formule V. Donc, de quoi il se retourne un peu donc dans les deux premiers opus de l'agent Jean?
Le premier opus, c'est vraiment une introduction du personnage et de son environnement. On découvre son lieu de travail. Puis c'est pour ça que le premier album se passe uniquement dans les bureaux de l'agence. Mm-hmm. En fait. Puis chaque album tourne autour aussi d'une fin du monde qui pourrait se produire à tout moment. Puis le deuxième, on est plus un album fleuve, que je dirais, il dure 40 pages de plus que le premier, je me suis vraiment laissé aller, puis peut-être plus intimiste avec les personnages. On est plus proche d'eux autres plus longtemps.
Oui, parce que comme on avait établi l'univers, donc là, on peut vraiment s'attarder aux personnages, parce que, dans le fond, les attentes la connaissance de l'univers est déjà là quand on arrive au deuxième, donc...
Oui, puis c'est vraiment le fun de pouvoir aller plus profondément dans les personnages, puis j'essaie toujours de, dans chaque tome, de présenter des nouveaux éléments pour qu'on connaisse mieux ces personnages-là. J'ai 8 tomes dans la tête en ce moment, donc, qui sont déjà établis.
Et ça reste un peu dans l'univers du pastiche d'espionnage?
Si on veut, je dirais que c'est plus proche du pastiche de super-héros, quasiment. Parce que j'utilise un thème où c'est un espion ou un agent secret, mais il ne fait pas vraiment un travail d'espion. Je ne l'ai jamais vu aller incognito, maintenant, dans un endroit pour tirer de l'information. C'est plus, on se bat contre des gros méchants, on fonce dans le tas, puis...
Oui, puis il est pratiquement invincible. Enfin, il y a un côté, effectivement, comme vous dites, un côté surhumain où il réalise tout, mais en étant aussi un peu inconscient de ce qu'il fait.
Je voulais faire ça un personnage d'agent secret comique, mais je voulais pas qu'il soit gaffeux puis loser, comme on voit trop souvent. Je voulais que ça soit vraiment un gagnant. Fait que, ça, je l'ai créé comme vraiment surdoué. ben, ces méthodes ne conviennent pas du tout à l'endroit où ils travaillent.
Et
c'est pas grave, ils n'ont pas le choix de le garder parce qu'il est vraiment excellent.
Est-ce qu'au bout du compte, amène un héros décalé, mais dans un univers décalé, mais où l'un et l'autre sont décalés par l'un par rapport à l'autre, en fait, ce qui accentue peut-être un peu l'ambiance de folie aussi qui ressort de tout ça?
Oui, ben le personnage de Jean est vraiment comme un extraterrestre comparé aux autres qui travaillent là. C'est tous des gens sérieux, puis ils prennent leur travail au sérieux, comme sa patronne, qui est comme une anti-Jean complètement. Lui, il va un peu installer ce climat-là d'un peu plus, on dédramatise, puis on a du plaisir dans ce qu'on fait. Mais c'est un peu ça, le message, si on veut, en arrière de mes albums, c'est toujours la dédramatisation, puis le plaisir dans la vie, puis dans ce qu'on fait.
Et vous disiez tout à l'heure, vous avez été obligé un peu de vous restreindre dans ces côtés-là. Justement, de quelle manière on dose un peu pour essayer de créer quelque chose qui marche, qui fonctionne et que vous savez aussi être en mesure de pouvoir porter pour 4-8 albums, de ne pas se donner des défis impossibles non plus?
Ouais, ben, je ne sais pas trop. En fait, non, je suis allé avec, comme je disais, un univers un peu moins...
On y va à l'instinct, dans le fond.
Oui, ben c'est ça. Ouais, je travaille beaucoup à l'instinct. C'est toujours dur d'expliquer mes cheminements. Dans le fond, mes autres séries que j'ai en tête qui sont plus décalées encore, je pense qu'ils sont aussi accessibles que les autres.
Oui, ça s'agit simplement de se lancer, d'aller chercher le lecteur d'une manière ou d'une autre. Puis
oui,
si on réussit à bien le capter dans les premières pages, il va suivre pour le reste de l'album. Là.
C'est ça. Puis créer des histoires accessibles, surtout dans les histoires. Les univers que je crée sont très, très pétés. Lui, de la Jean-Jean, un peu moins, mais quand même, on me dit que oui. Mais les histoires sont toujours très simples, suivables, puis on peut se reconnaître dans les personnages. Mais puis, c'est toujours, j'essaie d'être toujours très drôle aussi.
Mm-hmm.
Donc, c'est souvent pour ça que les gens apprécient.
Et en même temps, ça reste en adéquation aussi avec votre style graphique, votre style de dessin qui se prête bien à ce type d'univers-là, je trouve. Là.
Ouais, ben, les gens trouvent ça comique, même quand je dessine pas quelque chose de comique pour moi. Donc, avec mes personnages sont toujours drôles, je fais pas qu'ils se stressent.
Et dans les coupures de presse, notamment dans les communiqués, le reste, vous accentuez un peu ce côté-là, parce que en fait, on parle d'un univers à la limite du plausible qui est inspiré par tout ce qui existe et surtout tout ce qui n'existe pas. Alors, on donne un peu le ton aussi à travers ces éléments-là.
Ouais, oui, c'est une phrase, j'aime beaucoup ça, d'ailleurs.
Okay. Pourquoi l'avoir choisi? Qu'est-ce qui vous a charmé dans cette phrase-là?
Tout à fait vrai que je m'inspire de tout, mais ce que j'aimais dans cette phrase-là, ça disait que j'aime beaucoup sortir de la réalité, sortir de l'humain. Ça me tente pas d'écrire des histoires autobiographiques, puis comme on en voit beaucoup. Je rien contre ça, j'aime ça beaucoup, mais moi, ça me parle pas, puis comme je disais, je m'ennuie dans le dessin aussi en faisant ça, donc il faut absolument que je sorte. Comme j'ai une prochaine série qui se passe même pas dans notre univers, elle se passe dans un autre univers au-dessus de nous, justement, c'est dans le monde de l'imaginaire. J'aime beaucoup plus le monde de l'imaginaire que le monde réel.
Et
le monde réel, on est toujours dedans. De toute façon.
Et c'est pour ça que vous avez choisi aussi d'y aller avec des personnages animaliers?
Oui, c'est aussi parce que je dessinais des humains, je trouve ça plus ennuyant aussi. Franchement, c'est plus difficile de dessiner des humains. Je trouve que dans mes prochaines séries, je ne vais même pas me limiter à des personnages animaliers. Je fais des personnages de toutes sortes. Si j'ai envie de faire parler un toaster, je vais le faire. Même, j'ai aucune limite de design. J'aime ça faire beaucoup un mélange des choses.
Et est-ce qu'il y a déjà un échéancier pour le troisième, le quatrième tome de la Jean-Jean?
Oui, le troisième, je suis déjà en train de le faire. Je suis à l'étape des dessins. Puis, il devrait sortir pour le Salon du livre de Montréal en novembre prochain. Le quatrième, ça va aller à début 2013.
Alors, on garde un peu le même rythme, dans le fond, que pour cette année, avec le deuxième qui arrive au Salon du Livre de Québec, le troisième au Salon du Livre de Montréal, et ainsi de suite.
Ouais, finalement, c'est d'avoir un tome par salon.
C'est un bon défi. Alors, on vous souhaite...
Ça,
oui, allez-y.
Non, j'ai aussi un autre album à paraître aux éditions Première Ligne, aussi en septembre, je crois, qui va être une autre série complètement avec un autre personnage.
Alors, ben, on suit tout ça. Et d'ici là, ben, le tome 1, donc, est disponible, La Jean-Jean, le cerveau de l'Apocalypse. Alex A., merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
Voilà, Alex A., auteur donc de L'agent Jean chez Presse Aventure. On écoute un dernier extrait de la formation québécoise Le Matos et au retour, on jase avec Michel Giguère. Voilà, donc, extrait de l'album Coming Soon, la formation Le Matos. Et pour terminer l'édition de cette semaine, on accueille maintenant Michel Giguère. Bonjour.
Salut Raymond.
Ça va?
Oui, très bien.
Oui, en fait, ta voix est meilleure que la mienne.
Écoute, c'est depuis peu. Ça fait 2 semaines, j'ai une voix de canard.
C'est dur à vivre. On se croirait Donald Duck par moment. Et Stéphane, en fait, et Michel, on en parlait un peu la semaine dernière, donc gens de Bordeaux qui vont venir presque en délégation à Québec dans le cadre de ces échanges Bordeaux-Québec.
Oui, bien, au premier chef, celui qui sera en résidence et qui est déjà arrivé depuis quelques jours. Si le projet de Francis Desharnais a bien fonctionné, ce soir, ils sont en train de faire une tournée des Grands-Ducs. Ils vont faire la tournée de quelques bars de la Basse-Ville. Alors, je pense qu'il ne s'ennuiera pas. Il va être bien accueilli par la communauté BDS québécoise. Et puis, Dumonteuil, ben, pour le présenter rapidement, des fois, je trouve ça dommage que certains créateurs qu'on reçoit soient pas si connus du grand public. Et en même temps, de notre côté, quelle belle occasion, justement, de les mieux connaître. Alors, Nicolas Dumonteuil s'est fait connaître, en tout cas au moins des BD-files, et entre autres en France, là, ça a fait un grand coup, avec son deuxième album qui s'intitulait « Qui a tué l'idiot ?». Et moi, je l'avais lu à l'époque, vraiment séduit par les images, mais qui semblaient être des images un peu bon enfant, un peu très attrayantes et très légères, tu sais, genre gentilles. Et quand on se met à lire un peu, au bout de quelques pages, on se rend compte que c'est pas vraiment gentil, c'est très malsain comme récit, comme ambiance. Et puis, il a reçu pour ça le prix du Festival de Sierre, l'Alphard du meilleur album à Angoulême et le prix René Goscinny du meilleur scénario. Donc, pour un début de carrière, il partait très fort. On suivit dans un même style de dessin Malentendu en 1999 et en 2001, un diptyque. Le singe et la sirène, et puis le singe et la dame blanche, avec une scénariste qui est une exception dans son parcours, parce que toutes ses autres œuvres sont vraiment à titre d'auteur complet, scénario et dessin. Et puis, avec ces deux récits-là qui se déroulent vraiment à Bordeaux, on découvre en même temps des quartiers un peu plus... On n'est pas dans le quartier touristique, là, on est dans des quartiers assez durs de Bordeaux. Donc, on est dans le milieu des prostituées et des gens ordinaires et même des gitans, tout ça. Et puis, c'est un espèce de portrait de groupe. D'ailleurs, Dumonteuil fait souvent ça, il dépeint souvent des groupes de personnages. Donc, c'est vraiment très intéressant. Après quoi, il va y avoir une rupture graphique. Je parle de rupture assez décisive. C'est, en fait, il nous revient avec un style de dessin où il est méconnaissable. On ne peut même pas savoir que c'est le même Dumonteuil. Fini des couleurs directes qui étaient peintes directement sur les planches. Il travaille avec un coloriste. Et en fait, il a depuis travaillé avec deux coloristes différents, mais qui travaillent un petit peu de la même façon. Donc, le changement de coloriste n'a pas été très sensible. Et puis, donc, le premier album qui marque une cassure, entre guillemets, c'est Le Roi cassé, c'est le cas de le dire. Une histoire forte, super originale. C'est un type qui revient, en fait, il revient pas. C'est la Première Guerre mondiale. Il meurt dans les tranchées. Et puis, la mort, qui est personnifié par différents personnages, trouve à un moment donné que c'en est assez. C'en est assez de la boucherie. La mort dit, c'est pas naturel, moi je travaille pour accueillir des gens un par un, là, mais pas par centaines à toutes les heures. Là. Alors, il va voir le président de la République française, il lui dit, écoutez, tel soldat, qui est le personnage principal, c'est le dernier mort de la guerre. ça va être lui, le dernier à mourir juste avant la fin de la guerre. Alors, pourquoi on ne déclarerait pas d'ores et déjà que c'est lui dans 3 mois qui va mourir.
Pour se donner l'échéance.
Et puis, dans les 3 prochains mois, on arrête la tuerie, tu sais. Donc, ça va faire ça de moins en mort à accueillir dans l'au-delà et ça de moins de boucherie, là. Et puis, le président de la République n'a pas vraiment le choix, ça lui sourit aussi. Donc, on présente en grande pompe à la population française, machin, dont j'oublie le nom, qui sera le dernier mort, le dernier soldat mort sur le front. Et là, il est un héros national. Tout le monde trouve qu'il se sacrifie pour sauver la vie des autres qui ne mourront pas d'ici là. Mais c'est sûr que dans 3 mois, il n'en réchappera pas, il va devoir trépasser. Ça ouvre à toutes sortes de possibles et Dumonteuil ne se gêne pas pour exploiter toute la réflexion philosophique que ça peut poser sur le plan aussi des valeurs sociales, politiques. C'est super intéressant. Et puis, il y a tout le parcours de ce bonhomme-là, psychologiquement parlant, qui passe par toutes sortes d'étapes. Là. Au début, il trouve ça bien ben correct, puis après ça, bon, il va changer un petit peu d'attitude.
Ouais, parce que c'est quand même sa vie qui est en jeu, donc il y a toutes les étapes du deuil, de la...
Remarque, lui, il n'avait rien à perdre, il mourait de toute façon, mais en tout cas, je ne veux pas trop en révéler, ouais. Mais c'est vraiment une idée forte et qui est exploitée à fond. Et après Le Roi cassé, très rapidement, il va nous revenir avec une série de titres là, que je nomme un diptyque qui s'appelle La femme floue autour d'une histoire d'amour d'un type pour une femme imaginaire. En tout cas, on ne sait même pas si elle existe vraiment. C'est La femme floue. Ensuite, un western en 3 albums, Bigfoot, que je viens... En fait, je m'apprête à lire la 3e et dernière partie. Ceux qui aiment les codes du western, allez-y, mais vous allez vous faire retourner comme un gant. C'est un vrai western, par même temps, c'est pas tout à fait ça. Et c'est inattendu, imprévisible, c'est savoureux. Et après quoi, il nous revient avec un autre triptyque, le Landais volant. C'est quoi le Landais volant? C'est un type qui est originaire des Landes, en France, et qui est un grand voyageur, un espèce d'aventurier, mais atypique, qui est un magnifique personnage et qui fait des rencontres incroyables en Afrique, aux États-Unis, un peu partout, là, d'un album à l'autre, on change de pays. Alors, Dumonteuil, une œuvre que j'avais lue en partie, que j'ai fini de découvrir dans les dernières semaines, et puis j'ai l'air de vendre ma salade, mais c'est vraiment un auteur à découvrir pour votre propre plaisir.
Et on a des occasions, justement, de faire découvrir ces auteurs-là à Québec. Mercredi prochain, tu vas le recevoir dans le cadre des rendez-vous de la BD à la bibliothèque Gabriel Leroy.
Oui, il faut préciser qu'il sera en compagnie du Québécois qui était en résidence l'automne dernier, donc Francis Dernay, le papa de Burkett et qui a fait aussi Motel Galactique avec Pierre Bouchard. Donc, les deux en même temps, images projetées sur écran, vous allez visiter les deux univers qui vont se heurter presque, parce que c'est des univers qui ont en commun l'absurde et puis quand même un certain nombre de choses finalement. Et c'est même pas fini parce qu'en fait, c'est la folie le mois prochain. Écoute, c'est parce que là, pour marquer le coup des 5 ans du programme de résidence, Dumonteuil étant le 6e, mais les Québécois, pour une question de date, il y en a eu 5 jusqu'ici. Donc, les 5 Québécois, évidemment, seront en ville, mais on fait venir les 5. En fait, malheureusement, il y en a un des 5 qui ne pourra pas être présent. C'est Anton qui est parti sur un bateau pour capturer et marquer des requins pour un programme d'études. En tout cas, bref, ça, c'est un gars qui semble faire de la bande dessinée un petit peu en dilettante. Il a beaucoup de talent. C'est pas qu'il n'est pas professionnel, mais plein de choses l'attirent. Et puis, il peut partir comme ça, faire des espèces, ouvrir des parenthèses et puis laisser un petit peu le monde à BD. Mais seront là. Cromwell. Didier Cromwell, qui est le premier qui est venu en résidence à partir de 2007. C'est aussi l'aîné de toute la bande. Et puis, Cromwell, qu'on a découvert avec le bal de la sueur, qui est une espèce de Fitzcarraldo punk et cauchemardesque, qui s'est fait connaître ensuite avec un autre western, Minetos Desperados. C'est un Sergio Leone au féminin, si vous voulez. Ensuite, Anita Bomba, une série de science-fiction rétro en rouge et gris, magnifique, avec une galerie de personnages visuellement très, très fort. Et ensuite, il a surpris tout le monde avec une adaptation du dernier des Mohicans, des images peintes. En fait, ce sont des immenses tableaux. Il a fait une espèce d'album hybride avec ça qui est magnifique. Et c'est là-dessus qu'il travaillait durant son séjour à Québec. Ensuite, il y a eu Anton. En 2009, la 3e, une femme, Laureline Matuissi. Il y a chez elle un charme puis une réserve dans sa personnalité qui laisse pas du tout présager le ton cru dans le langage et dans la sexualité de ses histoires. Une auteure donc étonnante avec un style graphique très reconnaissable qui tend vers l'épure et en même temps d'une certaine manière l'expressionnisme. Et puis, il y a vraiment dans son style graphique une recherche de quelque chose de primitif, comme l'art primitif africain ou même d'autres cultures, qui est tout à fait en phase avec ce qu'elle montre, c'est-à-dire l'animalité dans l'homme et dans la femme, entre autres dans leur relation sexuelle.
Et elle ne se gêne pas, comme tu le dis, pour le présenter.
Le montrer.
Le montrer.
De façon assez directe, merci. Et il y a eu donc deux tomes de L'île au poulailler, une histoire de pirates et de piratesse. Et puis maintenant, La Lionne, qui est un peplum, c'est-à-dire un récit qui se passe dans l'Antiquité. Rapidement, ensuite, il y a eu Vincent Perriot, jeune prodige, qui dessine et met en scène avec une aisance presque obscène. Il y a aussi un style, un trait frémissant, foisonnant, qui le place dans la mouvance de Sphère de Blin et de plein d'autres. C'est un type qui parle comme il pense, c'est-à-dire à toute vitesse. On dit de lui dans une de ses biographies sur Internet qu'il est animé d'une énergie frénétique. C'est un gars qui est absolument sympathique par ailleurs. Et là, il vient de sortir un recueil qui s'appelle Dog en 2012, qui est un petit peu le pendant de quelque chose qui date de 2007 qui s'appelait Entre deux. Ce sont des albums hybrides à mi-chemin entre la BD et l'illustration. Ce sont des albums muets avec un trait, comme je viens de décrire, là, qui est vraiment hypnotisant. Et puis aussi, des albums plus standards. Il y a eu Belleville Story, un diptyque qui se passe à Belleville, en banlieue de Paris, dans les milieux interlopes, tout ça. Et puis, Taïga Rouge, une histoire qui a été commencée en 2008 et qui, malheureusement, est restée sans suite jusqu'ici. On espère la suite. C'est un album qui le fait remarquer. C'est vraiment par ça qu'on l'a découvert. Et c'est impressionnant, si jeune et qui maîtrise totalement son art déjà. Jérôme Davio, c'est le dernier qui est venu en résidence, grand escogriffe, très sympa, au talent protéiforme, qu'on ne reconnaît pas d'un album à l'autre. Entre autres, il fait partie d'un groupe de musique en plus. Les Focon, mais il faut prononcer Focon. Pendant longtemps, quand j'étais à Bordeaux, je me demandais bien comment s'écrivait Focon, mais c'est Focon. Sa production a aidé donc d'une grande polyvalence. Il y a Ange le Terrible, une série jeunesse. Il y a Inès, un album qui porte sur la violence conjugale qui m'a, moi, bouleversé sur un scénario de Luc Devilliers. Et Le Trop Grand Vide d'Alphonse Tabouret, qui est encore une fois une œuvre hybride, donc mi-chemin entre le récit illustré et puis la BD, ainsi que de nombreux collectifs. Et finalement, celle qui va un petit peu remplacer Anton, c'est Johanna Schipper, de son nom complet, qui n'est pas venue en résidence, mais qui s'est attardée au Québec parce qu'après son passage au festival, en avril dernier, elle est montée au Nunavik. C'est une grande voyageuse. La lecture de ses œuvres peut laisser deviner une auteure qui est un peu portée sur la métaphysique, c'est le cas, sur l'exploration de notre psyché aussi. Tant ses récits complets, comme Nos âmes sauvages ou Nés quelque part, que sa série Jeunesse, les phosphées, laisse voir tout ça. Mais Johanna est loin d'être seulement une rêveuse qui vit dans les nuages. C'est une femme de tête au parcours impressionnant qui a été coloriste, directrice et artistique, commissaire d'exposition, traductrice, enseignante et grande voyageuse polyglotte, quelqu'un de très intéressant et de aussi charmante finalement que Laureline. Donc, tous ces gens-là seront le mois prochain à Québec. Profitons-en, on pourra les rencontrer, des précisions à venir.
Alors, ben, on suit évidemment tout ça et on rappelle le premier rendez-vous donc de cette suite de rencontres et de découvertes avec Nicolas Dumonteil, c'est mercredi qui vient, mercredi prochain, 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy.
Avec Francis Desharnais aussi.
Voilà. Ben, Michel Giguère, merci beaucoup.
Ciao, bonne fin de semaine.
Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. On se retrouve évidemment vendredi prochain. Et d'ici là, on laisse la place à l'équipe de 100% Dynamite. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette édition de La Vie en BD.